or no.
Say yes or no. Yes or no.
Et la question du jour qu'on vous posait vendredi pour aujourd'hui était simple. Combattre l'islamisme en Europe, est-il déjà trop tard? Alors Lise, ce matin, nous sommes en compagnie de Mohamed Sifaoui pour tenter avec vous de répondre à la question du jour.
Mohamed Sifaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes journaliste et écrivain. Est-ce que vous pensez que combattre l'islamisme en Europe est déjà trop tard?
Ben, il n'y a que des voix du défaitisme qui le disent. Moi, je ne pense pas qu'on puisse affirmer cela. Ce serait renoncer complètement à tous les combats qui doivent être menés. Mais je pense que le citoyen européen est malheureusement totalement dévitalisé et incapable de mener des combats. C'est-à-dire que la société civile n'est pas à même de porter, je dirais, le combat culturel qui est nécessaire et la mobilisation qui doit être celle de tout citoyen démocrate, me semble-t-il. Parce que justement, je crois qu'on a trop pris l'habitude de tout déléguer aux responsables politiques. Or, par définition, les responsables politiques ne sont pas très courageux. Ils cherchent d'abord à comprendre les rapports de force qu'il y a dans la société et ainsi prendre des mesures qui pourraient aussi leur permettre de poursuivre leur carrière tranquillement. Or, aujourd'hui, il y a pendant plusieurs années des silences et des renoncements qui se sont installés dans la société et qui se sont poursuivis dans la société civile et ensuite évidemment dans le champ politique.
Alors,
je crois que c'est ça le problème premier.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Mohamed Sifaoui, d'urgence, on va dire, aujourd'hui?
Il y a plusieurs choses, ça dépend de quoi l'on parle. Si il est question de, par exemple, appliquer tout simplement la loi et refuser que des diktats soient imposés à des citoyens, par d'ailleurs des citoyens quels qu'ils soient, qu'ils soient musulmans ou pas, parce que il faut aussi rappeler que les musulmans qui ne sont pas islamistes souffrent probablement en silence, avec trop de silence, de cette montée de l'islam politique ici et là en Europe, notamment dans certains quartiers totalement ghettoisés. La question, encore une fois, qui doit être posée, c'est comment déghettoiser un certain nombre de quartiers qu'on a laissés ou qu'on a livrés plutôt à l'islam politique. Deuxièmement, comment arriver à susciter une dynamique qui amène certains responsables politiques, notamment à gauche, à se défaire de cette convergence des luttes contre nature avec l'islam politique, parce que ce qu'on appelle à juste titre communément l'islamo-gauchisme, ce n'est rien d'autre que des connivences ou des convergences de lutte entre des gens se réclamant de la gauche et des mouvements islamistes. Ensuite, il y a l'application stricte de ce que permet la loi. Et les sociétés modernes, les sociétés démocratiques sont plutôt connues pour disposer de tout un arsenal juridique qui permet de faire face à l'islam politique du point de vue du droit. Mais la question, ce n'est pas uniquement une question de juridisme, c'est une question aussi de mentalité. Lorsque, comme je le disais, les sociétés à travers chaque citoyen commencent à accepter des comportements qui sont à tout le moins antidémocratiques, en faisant soit du relativisme culturel, soit tout simplement du déni, en mettant la poussière sous le tapis, tout le monde un peu crée les conditions de l'avancée de l'islamisme. L'islamisme n'a pas avancé toutes ces années avec sa force intrinsèque, il n'en a pas en vérité. Il a avancé parce que les sociétés démocratiques sont faibles et parce que souvent, malheureusement, ils sont représentés par des gens qui ne sont pas très courageux.
Alors, vous avez raison, Mohamed Sifaoui, de faire la distinction entre l'islamisme radical et terroriste et le monde musulman. Et par rapport à ces faiblesses, on va dire, de l'Europe, il y a notamment toutes ces subventions de l'Union européenne à des entités qui sont en fait hostiles aux valeurs européennes. Et justement, en Belgique, puisque Radio Judaïka est à Bruxelles, Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière un nouveau projet de loi pour interdire des organisations extrémistes radicales, notamment Sami Doun ou les Frères musulmans. Vous avez envie de dire il était temps, hein, Mohamed Sifaoui?
Il était temps, mais c'est une réaction ou une action nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui n'est pas fait, et singulièrement en Belgique, puisque vous parlez de la Belgique, c'est d'abord une cartographie, un vrai diagnostic de qui sont les acteurs les plus toxiques. Et aujourd'hui, évidemment, on croit à tort que les acteurs les plus toxiques sont les acteurs les plus visibles. Il y a des acteurs qui font avancer les idées d'islam politique à bas bruit. Donc d'abord, il faut arriver à faire le bon diagnostic, un peu comme ce que fait un médecin lorsqu'il se retrouve face à un corps malade. Le diagnostic n'est pas fait, c'est qu'en Europe aujourd'hui encore, on ne sait même pas quels sont les courants idéologiques islamistes qui sont souvent différents, mais complémentaires, qui agissent sur le terrain. Il y a effectivement ceux que vous avez cités, c'est-à-dire ceux qui sont de près ou de loin proches des frères musulmans, et vous avez toute une armada d'autres organisations, parfois liées à des États, je pense notamment à la Turquie, mais pas seulement, à l'Algérie, au Maroc, etc., et qui avancent à travers un islamisme qui est différent.
Oui, allez-y, pardon. Mohamed, allez-y.
Pas compris ?
Non, allez-y, on vous écoute.
Les frères musulmans, encore une fois, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a d'autres organisations qui sont moins visibles. Je peux parler de, encore une fois, des courants islamistes proches de certains États. J'ai parlé de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie. Et il y a évidemment un islamisme plus radical qui est soit violent, soit radical dans l'expression politique. Je pense notamment aux salafistes. Djihadistes ou non djihadistes. Il y a des islamistes qui prônent le repli sur soi, en tout cas la rupture avec la société dans laquelle ils évoluent. Il y a les organisations islamistes prédicatrices qui font du prosélytisme type le Tablir. Il y a l'islamisme tchétchène qui est là aussi encore peu visible. Il y a des organisations qui sont aujourd'hui des organisations transnationales, je pense au Parti de la Libération, Hizb Tahrir, qui est totalement méconnu, mais qui est aussi très présent en Belgique, mais pas seulement aussi en Scandinavie et aux Pays-Bas. Donc déjà, ce diagnostic n'est pas réalisé. Ensuite, après le diagnostic, il faut arriver effectivement à couper les sources de financement, mais nous voyons la capacité de résilience, je dirais, de certaines organisations islamistes. Vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec l'ex-CCIF en France. Alors, après sa dissolution, l'organisation a essayé de renaître de ses cendres en créant un appendice en Belgique sous le nom le CCIB, et qui continue d'agir exactement de la même manière, qui est une organisation proche des frères musulmans et qui est tout aussi toxique. Alors, même si son influence a considérablement baissé. Mais ce qu'on observe, par exemple, avec l'expérience française, après la mise en place de la loi dite contre les idées séparatistes, la dissolution de groupes comme le CCIF ou Baraka City a apporté des résultats, incontestablement. Donc cette notion qui vise à justement dissoudre et interdire toute activité à des organisations qui sont clairement antidémocratique, parce que cela doit être établi, et nous le savons tous, et heureusement que les démocraties permettent le libre fonctionnement des organisations et des associations. Donc il faut, encore faut-il, établir la toxicité et la dangerosité de ces organisations. Une fois établi, oui, il faut agir, il faut sévir dans le cadre de la loi.
Justement, vous parliez de choses à bas bruit. Il y a une récente polémique sur le financement du programme européen Erasmus. C'est vrai que c'était un programme qui semblait innocent puisque c'était uniquement des échanges d'étudiants entre les pays d'Europe. Et pourtant, visiblement, c'était en lien avec les frères musulmans et l'islam radical.
La présidentisme des frères musulmans a effectivement créé un écosystème qui n'est pas encore identifié. C'est pour ça que j'ai parlé de diagnostic. À part les services de renseignement, et encore, à part les services de renseignement, le plus souvent, les institutions européennes, quelles qu'elles soient, méconnaissent totalement la réalité de plusieurs organisations. En vérité, elles jouent sur une ambiguïté. Aucune de ces organisations ne se présente ouvertement comme une organisation islamiste. L'ensemble se présente comme association islamique, musulmane ou association culturelle ou association qui n'a pas de connotation religieuse. Donc, il faut arriver véritablement à les identifier à travers cette cartographie qui est essentielle. Une fois qu'on a cartographié ça, il faut arriver à comprendre à la fois la dangerosité de ce qui, de tous ceux qui se réclament de l'islam politique au sens large, mais principalement, effectivement, des frères musulmans. Mais encore une fois, il faut dépasser le seul cadre des frères musulmans. Mmh. Les frères musulmans, c'est la partie la plus visible, la plus dynamique, qui est aujourd'hui combattue dans plusieurs pays arabo-musulmans, mais qui arrive encore à se mouvoir dans l'espace européen. Donc, cela passe, oui, par la cessation de tout type de financement à l'égard de ces organisations. Mais encore, il faut aller plus loin, parce que aujourd'hui, plusieurs pays européens sont confrontés à une situation assez inédite, puisque certains États qui sont considérés comme des États alliés sponsorisent ou alors ont une attitude ambiguë avec des organisations islamistes qui représentent des ennemis de l'intérieur, faut-il le souligner et le dire clairement. Donc il faut aussi régler ces questions avec ces États étrangers, je pense en premier lieu au Qatar évidemment, mais aussi au Koweït qui continue parfois de financer des organisations islamistes, et enfin évidemment la Turquie.
Merci beaucoup Mohamed Fissifaoui d'avoir été avec nous ce matin, journaliste, écrivain. Votre dernier livre s'appelle « Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour » et celui d'avant était consacré au Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Merci à vous et bonne journée, à bientôt. Merci.